Tu l'as vu ?
Quoi ?
Eh, tu l'as vu ?
Mais quoi ?
Bah l'actu.
T'as vu l'actu ? Tous les samedis de 17h à 18h dans la tribu. La jeune et moins jeune rédaction décortique l'actualité locale, nationale et internationale.
Le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe.
À Nanterre, un mot d'ordre a été lancé. Occupez le quartier latin.
Réalisation d'interviews, accueil d'invités, correspondants étrangers, direct.
La tribu, l'information autrement.
Bonjour, bonsoir. C'est le bazar, là, ça va pas du tout, c'est le bazar. Bienvenue dans T'as vu l'actu, la jeune rédaction qui est en train de s'installer, a choisi des sujets et on va en discuter avec la vieille et les jeunes. Certains ont pas choisi de sujet. Enfin, en gros, c'est un peu free. Cette année, t'as vu l'actu, il y en a qui préparent, d'autres qui préparent pas, d'autres qui savaient même pas qui allait participer à cette émission. Et il y a juste une nouvelle rubrique quand même à la fin, c'est qu'il y a trois informations et il va falloir trouver dedans la fake news. Ouais. Voilà.
Cool. Très
oui. Et c'était un baptême de l'air ou du son pour Zach. Bonjour, bonsoir Zach.
Bonjour.
Donc Zach ne savait pas qu'il aurait la chance, l'honneur suprême de participer à t'as vu l'actu.
C'est un peu une prise en otage quoi.
Non, c'est en fait.
Il a pas vraiment eu le choix.
Bah si, il est venu à la radio, on l'a pas forcé quand même. Mais non, on lui a pas, parce que je me suis dit qu'il allait pas oser sinon, alors comme ça, voilà. Bonjour, bonsoir Romain.
Bonjour, bonsoir.
Alors bah Romain, on sait pas de quoi il va parler, mais il va parler.
Oui, je vais parler.
Alors de quoi ?
Eh bien, de l'annexion russe de 4 régions en Ukraine hier soir.
D'accord. Bonjour, bonsoir Marius.
Bonjour, bonsoir.
Et avec Marius, on va parler gros sous.
Oui, en effet. Gros sous sterling, plutôt.
Ouais, c'est de l'argent quand même.
Mais oui, bien sûr.
Nous, on prend tout, hein.
On prend tout l'argent.
Et normalement, il y a Thaïs qui doit nous rejoindre. Mais Thaïs a peut-être eu un souci, je ne sais pas. Donc, mais Thaïs, elle n'avait pas préparé de sujet non plus.
Voilà.
Elle jouait au basket, ce qui peut être un sujet aussi.
Ouais.
Donc, peut-être qu'elle a pris un peu de retard. On va peut-être commencer normalement, en fait, pour expliquer à Zach et peut-être aux auditeurs et auditrices qui ne connaîtraient pas cette émission. Elle est construite comme un journal d'information, mais un journal d'information à la tribu. Et la tribu, c'est une radio locale. Donc en fait, on commence par une information locale. Ça te parle ou pas du tout ?
Pas du tout.
Pas du tout. Alors, ce qu'on appelle une information locale, c'est ce qui se passe chez nous.
D'accord.
L'information nationale, c'est ce qui se passe en France. Et l'information internationale, c'est ce qui se passe partout dans le monde.
Ok.
Comme nous, on est une radio locale, en général, dans nos journaux, on commence par l'information locale. Et puis, petit à petit, on s'éloigne. On est aussi une radio jeunesse. Donc, il y a aussi ce qui intéresse les jeunes. Bon, là, quand même, c'est vous qui choisissez les sujets en partie. Donc, on se dit que ça vous intéresse. Donc là, on met toutes les infos au même niveau. Donc, il y a rien en France. Sauf si moi j'ai mis des choses de côté, mais en même temps il nous manque une Thaïs. Alors il va falloir qu'on fasse pouf pouf entre.
Oui.
Mais alors, sauf que moi j'ai mon idée, mais peut-être que Marius t'as une idée.
J'ai pas eu énormément de temps pour relire ma chronique, donc pour qu'elle soit plus fluide et compréhensible, je pense qu'il faudrait juste que j'ai un tout petit peu de temps pour pouvoir la lire en entier et voir.
Alors il y a un autre critère en fait qui peut rentrer en compte et qui va t'arranger, c'est la proximité.
Oui, mais
l'info la plus fraîche.
Ah oui, c'est vrai.
Donc du coup, et voilà. Et en fait, j'allais dire, du coup, que c'était plutôt Romain qui allait commencer. Et du coup, je sais pas si André nous entend, mais si André peut passer un petit coup de fil à Thaïs, je serais pas contre. Parce qu'en fait, j'ai peut-être déclencher une alerte enlèvement, je ne sais pas, quelque chose.
Non.
Okay. Non, il peut pas. Bon, c'est pas grave.
C'est dommage.
Du coup, donc, Romain, qui, nous venons de l'apprendre,
oui, exactement.
Va nous emmener en Russie, ou plutôt en Ukraine.
Donc, c'est simple. Vladimir Poutine a signé l'annexion officielle des régions ukrainiennes de Lugansk, du Donetsk, mais aussi de Kherson et de Zaporijja lors d'une cérémonie solennelle organisée au Kremlin hier soir.
Alors, annexion, est-ce que c'est clair pour toi, Zach, ou pas ?
Oui.
Ok.
Du coup, ça veut dire que par un référendum... Il y a un référendum qui s'est tenu du 23 au 27 septembre.
C'est quoi un référendum ?
Je
sais, madame.
Ah, vas-y.
Oui.
Alors, un référendum, c'est quand on organise des élections sur un... On pose la question à un peuple, une population particulière. pour savoir s'ils sont d'accord, si oui ou non on adopte ou on accepte quelque chose.
Est-ce que vous voulez manger des frites à la cantine ?
Oui,
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 c'est un référendum. Ou non, et c'est un référendum.
Voilà, exactement. Voilà.
Merci Marius.
Mais je vous en prie.
Le problème, c'est que ce référendum, c'est pas fait comme on pourrait le faire en France, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'encadrement militaire de l'armée russe, des encadrements des habitants. Il y a des témoignages qui rapportent l'escorte des habitants jusqu'aux urnes pour voter.
Ils ont un peu obligé les gens à voter, en gros.
Exactement. Et,
mais du coup, est-ce qu'ils sont sûrs de ce qu'ils ont mis dans l'enveloppe? En fait, il n'y avait que des bulletins. Il n'y avait que des bulletins, oui.
Ouais, c'est ça. Mais la population se sentait un peu... voilà quoi, contrainte à voter.
Forcée,
pour faire plaisir. Et puis ça s'est bien senti puisque les résultats sont tombés le 27 septembre.
Donc le 27 c'était mercredi, non mardi.
Mardi, ah oui mercredi.
Non mardi.
Mardi. je vais pas faire tous les chiffres mais
non.
C'est une moyenne de 90% pour l'ensemble des 4 régions.
Donc en gros toutes les régions ont voté pour faire partie de la Russie et plus de l'Ukraine.
Qui acceptent majoritairement d'être rattaché pour Poutine selon leur propre accord pour être rattaché au territoire russe. Et il a annoncé hier que après le résultat de ces référendums, il allait considérer ces 4 régions d'Ukraine comme appartenant à la Russie.
Donc ça veut dire qu'aujourd'hui ces 4 régions là qui étaient en Ukraine, elles sont comment ça se passe? Elles font partie de quoi?
Officiellement, elles font partie d'Ukraine, mais comme on dit...
Sauf pour la Russie, quoi.
Voilà. En fait, de fait, il y a une considération de ces régions comme russes.
Ok.
Et là où il y a une différence, c'est que maintenant, on sait, depuis le début de la guerre, l'Occident, c'est-à-dire... la France, les États-Unis, la majorité des pays d'Europe, le Canada, enfin plein de pays, donnent des armes à l'Ukraine pour pouvoir se défendre, dont dans ces régions-là. Puisque dans ces régions-là, c'est là précisément qu'il y a les campagnes militaires ukrainiennes pour récupérer leurs terres conquises par la Russie. Et... s'il y a des envois d'armes occidentales dans ces régions-là, la Russie pourrait très bien voir ça directement comme une attaque de l'Occident contre son territoire.
Ah, ça veut dire que si là, la France ou enfin l'Europe bombarde, j'ai dit n'importe quoi, hein, mais bombarde ces régions-là, ça voudrait dire que la Russie dirait on nous a attaqué.
Et considère comme une déclaration de guerre contre ces régions.
D'accord. Marius.
Parce que je crois que la différence entre... je suis pas sûre, mais la différence entre conquête et annexion, c'est qu'il y a la conquête, donc c'est le...
là, on arrive avec son cheval et on...
Ouais, non, la notion militaire, je pense. Et la conquête, l'annexion, c'est plus... de façon administrative, on rate...
On a demandé aux gens... En fait, c'est peut-être ça, la conquête, c'est... On n'a pas laissé le choix aux gens. Mmh. Et l'annexion, ça veut dire que les gens, ils ont voté, ils ont dit oui, on veut faire partie de la Russie.
En Crimée, il y a eu un référendum.
Oui, exactement.
C'était exactement la même méthode.
Donc en gros, l'annexion, c'est...
En Crimée, ils ont fait la même chose, en fait, toujours dans la même région. Enfin, non, pas tout à fait, mais pas très loin.
Sud de l'Ukraine. Sud
de l'Ukraine, ouais, c'est ça. Et en fait, en 2014.
Voilà. Et en fait, avec des... Bah, pareil, hein, des manifestations, enfin, pas mal de sanctions et de tensions. Bah, il y a eu ce référendum-là. Est-ce que vous voulez faire partie de la Russie? Avec le fusil
si
sur la tempe, limite.
Si vous dites non, vous êtes...
Voilà, c'est ça. Est-ce que vous voulez faire partie
de la
Russie?
Vous voulez pas faire partie de la Russie? Bon,
oui,
alors vous allez à l'échafaud.
Ou la mort. Donc, bah oui. Et bah du coup, ok. Bienvenue chez nous, comme ils ont dit hier soir. Et puis, je signe un papier. Vous faites partie de la Russie. Et la Crimée fait partie de la Russie, comme ce soir, ces 4 régions-là. Donc, voilà. Et puis il y a certains politiques ukrainiens qui considèrent ça comme une nouvelle perception de la Russie dans la guerre en Ukraine. Pour deux points, c'est que il y a eu quand même pas mal d'avancées des troupes. On en avait parlé dans la dernière fois des récupérations du territoire ukrainien par l'armée. Poutine certains disent que c'est face au fait qu'il commençait à perdre des territoires qu'il a accéléré le processus d'annexion.
Mmh.
Et la mobilisation de...
300 000 réservistes, non?
De 300 000 réservistes, en gros des volontaires citoyens de Russie.
C'est-à-dire qu'en fait, il est demandé aux hommes en Russie de participer à l'effort de guerre et donc d'aller combattre en Ukraine. Depuis deux semaines.
Depuis deux semaines. Bah, depuis l'annonce des référendums d'annexion, en fait.
D'accord.
Et ça a suscité un peu des sales réactions en Russie, avec des manifestations... Les habitants
qui... Il y a des gens qui fuient.
Qui fuient vers le Kazakhstan.
Qui s'en vont parce qu'ils veulent pas combattre, en fait.
Mm. Le Kazakhstan, la Géorgie.
Ah, Thaïs ne vient pas. Ah.
On vient de nous l'annoncer dans l'oreillette.
Ah, mince. Mm. Voilà, la Géorgie, l'Europe aussi.
Et puis, merci, André.
Et puis, Poutine a dit, ouais, non, on ne va plus permettre à ces gens-là de partir. Le problème, c'est que, contrairement au début du conflit, les gens sont confrontés directement à la guerre... et plus simplement à l'image d'opérations spéciales qui leur étaient présentées depuis le début.
On voit qu'il est isolé, qu'il est de plus en plus seul, Vladimir Poutine, face aux autres dirigeants dans le monde, en fait. Même la Chine, du coup, prend un peu ses distances.
Complètement. J'ai la réaction de la Chine vis-à-vis des référendums d'annexion. Donc pas quand il a annexé, mais juste quand il y a eu les résultats, qui sont absolument pas naturels. La Chine qui a dit que et l'acceptait pas en gros parce que et voulait respecter l'intégrité territoriale en fait. Et même la Serbie qui est pro-russe, qui est en Europe, a dit qu'elle ne reconnaîtrait pas ces référendums là. Donc on remarque qu'il y a même du côté de Poutine, des pays qui le soutiennent à demi-mot, commencent à dire il y a un truc qui va pas là.
Marius,
je crois j'ai vu que a lieu, je crois que au Conseil de sécurité non de l'UE n'importe quoi, au Conseil de sécurité de l'ONU, la Russie en fait partie, je crois.
Oui.
Oui. Et bien à chaque fois qu'on pose un droit de veto sur une résolution, la résolution ne passe pas.
Oui.
Si un seul pays le fait. Et du coup
il le fait.
Ouais, et du coup il devait y avoir une résolution qui condamne les résultats du référendum qui a été acceptée par la Chine fait partie du conseil.
Non, mais elle s'est abstenue justement. Ah, elle a pas fait de droit de veto, mais elle s'est abstenue alors que d'habitude elle est plutôt aux côtés de la Russie, alors que là elle s'abstient. Ça veut dire qu'elle participe pas au vote en fait. D'habitude la Russie et la Chine souvent sont sur au niveau mondial en fait, sont plutôt en accord, et là on voit que même la Chine ne se prononce plus. Elle dit pas qu'elle est contre, mais elle les soutient plus en tout cas.
Et d'autres pays, comme d'ailleurs l'Inde et le Brésil, qui étaient neutres, voire pro-russes, se sont abstenus pour ce vote. Et le Gabon également.
Ouais. Pourquoi avoir choisi ce sujet ?
Parce que on suit le conflit depuis le début, même à la radio. Et il y a quand même des moments de basculement. Enfin, c'est le premier truc auquel j'ai pensé à ce moment-là. C'est que là, il n'y a plus du tout le même rapport de force. On se rend compte que Poutine, justement, le fait qu'il soit isolé... il peut limite sortir n'importe quelle arme. Certains ont parlé de l'arme nucléaire, où il voit même plus de problème moral ou même économique à la sortir. Donc c'est vrai que là il y a un changement de frontière aussi. C'est encore plus incertain à l'issue, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que les conséquences s'accélèrent beaucoup.
Quel regard vous portez sur la guerre en Ukraine ? Qu'est-ce que ça, Zach ? Ça fait peur, ça...
Moi, ça me fait plutôt peur.
Ouais. Pourquoi ? Qu'est-ce qui te fait peur ? Par exemple, chez moi, j'ai entendu cette semaine, Poutine va lancer une bombe nucléaire.
Ben, ça fait plutôt peur. J'ai pas
de la part des enfants de la maison, et du coup, voilà, c'était une peur. On sent que c'est monté d'un cran, là. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu ressens ?
Oui, plutôt.
Ouais. Et du coup, ça... Est-ce que tu t'informes ? Est-ce que tu vas regarder un peu les informations ou pas du tout ?
Peut-être.
Parfois ou pas du tout ?
Parfois.
Ouais, ok. Du coup, faut que je remonte ton micro, je dis tout parce que ça me, voilà. Faut que tu parles bien devant, en fait. Voilà. Quand vous vous informez, les vieux, vous informez comment, Marie, sur la guerre?
Ah, moi, il m'arrive d'aller sur le site du Monde.
Ouais.
Ou alors, en fait, la plupart du temps, quand j'allume YouTube, ils mettent souvent les informations les plus récentes. Donc, je regarde ce qui...
Sur YouTube, mais sur quelle chaîne?
Ah, ça dépend. Par exemple, je sais pas si j'ai trop le droit de dire le nom du média. Ouais. C'est pas un média, c'est ni une chaîne de télévision ni quoi que ce soit. C'est un média en ligne, c'est le Huffington Post.
Ouais.
Donc souvent, je regarde leurs vidéos qui sont très très courtes. En général, c'est 3-5 minutes. Et ça explique en très peu de temps ce qui vient de se passer. Et ou alors le Parisien aussi, ils font des vidéos comme ça. Voilà. Après, je regarde pas forcément la chaîne qui publie ça. Mais en général, quand je regarde sur YouTube, enfin quand j'allume YouTube, je tombe directement sur une information parce que c'est ce que je regarde en général.
Romain.
Pareil. Enfin, je regarde moins de vidéos YouTube, mais enfin quand il y a une suggestion qui est très très intéressante, je regarde. Mais souvent, c'est plus plein de sites que je consulte. Ça peut, enfin en fait, là où il y a le maximum d'informations. Au moins une dizaine à chaque fois. Sinon, je lis Ouest France et Le Monde, principalement, pour savoir surtout s'il y a des informations un peu importantes sur l'évolution du conflit. C'est vrai qu'avant, je lisais énormément... Enfin, je regardais énormément les actualités. Là, je les regarde beaucoup moins. Mais c'est vrai que... C'est utile de pas mal s'informer avec tout ça.
Et donc, du coup, toi, Zach, tu t'écoutes plutôt la radio, tu regardes plutôt la télé ou tu vas plutôt sur Internet. Quand tu vas chercher une information, ça t'arrive ou pas, du coup? C'est plutôt la radio, non?
En fait, j'écoute quasiment jamais la radio.
D'accord.
Et j'ai pas de télé non plus.
Alors, comment, par exemple, quand tu dis « moi, ça me fait peur, la guerre en Ukraine », comment t'as été au courant qu'il y avait la guerre en Ukraine?
Les informations, par exemple... le lendemain au collège, j'avais entendu parler de ça dans les cours et tout et tout.
D'accord. Et tu vas pas dans ces cas-là, par exemple, au CDI, voir les journaux ou comment tu fais si tu veux en savoir davantage ou ça peut être avec tes parents aussi, peut-être que vous en parlez.
Ah oui, des fois, je pose souvent mes questions à mes parents.
D'accord. Mais du coup, jamais il y a une consultation d'informations.
Non.
Des fois, la radio, c'est un peu plus modéré, on va dire. Enfin, il n'y a pas les images. Donc,
oui.
C'est vrai que c'est des fois plus doux. Il y a Hugo Décrypte aussi sur YouTube.
Oui.
En fait, alors là, faut aller sur Internet.
J'ai jamais regardé, mais ça a l'air.
En fait, c'est plutôt pas mal parce qu'en fait, c'est des formats assez courts de petites vidéos et qui expliquent bien en fait chaque chose. Par contre, ça survole parfois. Mais du coup, ce que je trouve intéressant, c'est la thématique qui est choisie sur les sujets. Elle est assez originale en fait. Souvent, c'est pas ce qu'on entend dans les autres médias, donc ça peut être intéressant. Romain.
Ouais, c'est vrai. Et j'avais vu aussi, ça c'est un peu plus quand on un peu plus grand sur le site Le Monde. J'avais vu sur plusieurs réseaux sociaux, ils font dans le même format qu'Hugo Décrypte des petites vidéos.
Ouais.
Je sais pas si les podcasts c'est en vidéo aussi.
Je sais pas, mais il y a aussi les décodeurs.
Ouais,
il
y a ça.
Les groupes de médias comme ça qui autrefois faisaient plus du papier essayent de se moderniser parce que. Disons que la plupart des gens maintenant en France, même dans le monde, on n'achète plus les journaux tous les matins. Alors, voyons voir.
On les consulte, on va sur Internet. Ouais. En fait, parfois, on peut s'abonner sur Internet. Et puis, c'est vrai que on n'a plus du tout la même manière, en fait, de...
Mais ouais, il y a des graphiques, il y a des chiffres qui expliquent plein de trucs. Et même sur les conséquences de la guerre, parce que même au-delà du conflit, il y a plein de conséquences sur la société en France, notamment sur l'énergie... l'économie, même si bon, faut que ce soit expliqué clairement quoi.
D'autres choses à rajouter sur la guerre en Ukraine? Un truc peut-être pour rassurer Zach?
Alors, Vladimir Poutine, C'est pas quelqu'un.
C'est un homme gentil dans le fond.
Voilà. Dans le fond. Il faut aller vraiment bien dans le fond. Hein. Faut vraiment. Non, bah je sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait dire
Et c'est bientôt fini. Il fait beau demain.
Non, mais ce qu'il faut demain, dire. Moi, je me dis que si. Non, mais si franchement, sur la centrale nucléaire dont je me rappelle jamais le nom.
Zaporijjia.
En fait, c'est ça. En fait, la crainte, c'est qu'il bombarde cette centrale nucléaire et que ça explose. Seulement, s'il fait ça. La Russie va en prendre plein la tête.
Bah, c'est ça.
Donc, mais en fait, je vois pas. Bah, moi, je crois que si, quand même. Bah,
ouais, mais du coup, vu que c'est un dictateur, après, l'avis des Russes, en général, je sais pas si ça le. Ça... En France, par exemple, on ferait jamais une chose pareille, parce qu'il y a l'électorat, il y a l'opinion publique, c'est très
mais
important.
Mais sauf que lui va mourir aussi, s'il fait ça.
Bah, Moscou, c'est très éloigné de Zaporijjia.
Ah ouais,
il a toujours fuir au dernier moment.
Qu'est-ce qu'il a vraiment à garder maintenant?
On est ouais. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire pour rassurer Zach? Arrêtez là, je suis en train oui. d'essayer de trouver des trucs.
Bah, et, qu'il en a plus pour longtemps.
Le nucléaire, ça sent bon en fait.
Qu'on peut peut-être acheter, se cotiser et payer un tireur d'élite
ou un chat pour qu'il se calme. On offre un chat à Vladimir Poutine.
Ah, ça va peut-être mal, le calmer. Ça. Ouais.
Ou alors que cet hiver, l'ambiance va se refroidir.
Comment ça?
Jeu de mots.
Ouais.
Bah, je sais pas si c'est mieux que ça se refroidisse.
Maintenant qu'on a plus de gazoduc.
Alors, ouais.
Non, t'es. Est-ce que ça a marché ou pas?
Ouais. Un peu.
Bah, on a l'OTAN. On peut dire qu'on a l'OTAN. Voilà.
Voilà.
Bon, allez, on fait une pause musicale dans la tribu.
On this way so far, I've got nothing but sound, yeah. I'm ready, so better look out, new setup. I'm wandering like someone else. On this day so calm, feel the sun on my face. Feel ready, my vision is clear, looking close, but storming into something strange. This time we're recalling this.
l'actu, la suite.
Et la suite de T'as vu l'actu, c'est toujours en compagnie de Romain, Marius et Zach. La seule fille qui aurait pu venir me soutenir, bah on l'a perdue. On lui fait des gros bisous et on espère que tout va bien. Du coup, Marius, c'est à toi, je t'en prie.
Alors, on va parler de... du coup, des funérailles de la reine Elisabeth. Donc, ça fait longtemps, je sais, mais voilà. Donc, je vais en effet vous parler des funérailles de la reine Elisabeth II du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Alors, je veux bien que, si ça te dérange pas, Marius, oui. Tu te décales.
Pourquoi ?
Et bah, tu vas comprendre et tu vas okay. mettre ton cahier juste comme ça.
Ok.
Et ce que, par magie, ça. Tu seras bien face au micro, normalement.
Ah, en effet.
Et on t'entendra. Parce que là, on pouvait pas profiter de ta voix magnifique, c'est dommage.
Ça. Je me disais aussi.
Il manquait quelque chose.
Voilà. Cette dernière est décédée, pour rappel, le 8 septembre au château écossais de Balmoral, d'une mort naturelle, comme l'indique son certificat de décès récemment rendu public.
En est-on si sûr, hein ?
Oui, oui,
mais après, on peut lancer une fake news, hein, je veux dire.
C'est ce qui est écrit sur le certificat
d'accord.
de décès. Ben voilà, maintenant je me suis perdue, là. Les fake newsers. Ah. Ah oui, voilà. Donc après cela, c'est enclenché la... Pourquoi j'ai écrit célèbre ? Parce que ça se trouve, il y en a qui ne la connaissent pas. L'opération dite London Bridge, mise au point par la reine Elisabeth elle-même durant les années 60, afin d'organiser ses funérailles, ainsi que la transition vers une nouvelle ère non plus élisabéthaine, mais carlienne. Alors ça, c'était pour briller un peu hein, que j'ai mis wow. carlienne. Mais je suis pas sûre que ça se dit vraiment comme ça. Donc ça, c'était pour les explications pratiques. Maintenant, rentrons dans la partie plus triste de l'histoire. Vous avez sûrement entendu... sûrement entendu parler de la situation très critique et de la crise au Royaume-Uni.
Donc parce bah que... oui, hein, Jacques, oui. on en a entendu parler.
Oui,
bah ouais, bien sûr.
surtout très difficile pour les ménages les plus modestes. Dans la nuit du 25 au 26 septembre, la livre sterling a chuté de $1,0365. Je sais pas trop ce que ça représente, mais j'avais envie de le mettre. Soit son plus bas niveau jamais enregistré. Cette chute, qualifiée d'historique, est provoquée par les baisses d'impôts et d'autres mesures budgétaires annoncées par Liz Truss, nouvelle première ministre britannique, conservatrice.
Parce qu'en fait, il y a deux partis au Royaume-Uni, les conservateurs et les travaillistes. Je vais faire une grosse caricature, hein, mais tant pis. En gros, les conservateurs, c'est plutôt à droite et les travaillistes, c'est plutôt à gauche, si on prend l'exemple par rapport à la France.
Ouais.
Et du coup, là, en ce moment, la première ministre, elle est plutôt à droite.
Voilà.
Conservatrice.
On rappelle que c'est une grosse caricature.
Mais oui,
c'est...
Bah,
c'est... Après, c'est...
Oui, mais en soi...
Bah oui, c'est ça, en fait.
Le plus principe. Social et plus économique.
Voilà. C'est ça.
Bah oui, c'est ça. Enfin, je crois. Bah oui. Bon, alors oui. Donc, où j'en étais rendue ? Ah oui, cette nouvelle première ministre. Le pays s'enfonce donc dans la récession. Face à cette situation, le nouveau ministre des Finances, Kwasi Kwarteng, voilà, je sais pas si ça se prononce comme ça.
Bah nous non plus.
Bah voilà. A annoncé une série de mesures de soutien aux ménages britanniques dont le taux d'inflation est supérieur à 10%. Donc s'agissant du coût de la monarchie maintenant. Il est élevé à 102,4 millions de livres sterling, soit environ 119 millions d'euros. C'est à peu près le coût annuel de la présidence française de la République. Donc 63,9 millions pour les parcs immobiliers et les résidences, 27,5 millions pour les frais personnels et tout ça.
Ça, c'est ce que coûte la reine, en gros. Enfin, le roi, maintenant.
4,5 millions de livres pour les déplacements de la famille royale. Au total, cela fait un coût annuel de 1,5 euros par Britannique. On va dire ça comme ça. Les funérailles de la monarque, elles, vont coûter environ 35 millions de livres sterling. Après cela, il faudra modifier les timbres, la monnaie et les initiales de la reine Elisabeth. Donc, les initiales, c'est Elisabeth Regina, mais c'est un détail. Donc, c'est ER. Et du coup, il faudra tout changer sur plein de choses. Donc, ça coûte quand même de l'argent. Pour mettre les initiales du roi, du nouveau roi. De plus... Je tourne ma page. De plus, la fermeture des commerces et d'entreprises aura un coût indirect non négligeable sur l'économie britannique. Sans oublier que Sa Majesté, le roi Charles III, sera exempté de droits de succession. Donc il ne payera rien sur la fortune qu'il reçoit de sa mère. Bah oui, quand même. Pour finir, le manque à gagner des funérailles de la Queen Mum est estimé entre 1,5 et 7 millions d'euros. Ensuite... nous observerons la même situation de ralentissement économique pour le couronnement de Charles III, donc qui sera en juin, je crois. à rappeler que compte tenu de la situation, bientôt, c'est pas vraiment un terme journalistique terrible, mais c'est tout ce que j'ai trouvé, 3 millions d'individus passeront sous le seuil de pauvreté en Grande-Bretagne. Voilà. Pour finir cette chronique.
Alors, je me permets, alors j'ai pas les chiffres moi par contre, d'ajouter un truc. C'est que finalement, j'ai entendu sur France Info, au moment des funérailles, peut-être bien juste avant, le prix, le même sujet que le tien. Et par contre, ce qu'il disait, c'est que finalement, il y avait plein de gens qui venaient à Londres et qui allaient visiter tout ce qui concernait la famille royale, les bâtiments Westminster, etc. Qu'il y avait également tous les goodies qui étaient liés à la famille royale, qui étaient vendus. Les goodies, c'est les tasses comme Harry Potter, quoi. Sauf que c'est la tête de Charles, donc c'est moins drôle. C'était la fake news de la semaine dernière, d'ailleurs.
Ah oui, c'est vrai.
Que les Britanniques allaient acheter, enfin, se voyaient pas boire le matin leur thé dans
boire
un
dans
mug
Charles.
Dans Charles. Et elle rigole. T'as pas heure, pour toi, ça te semblait crédible, je te signale. T'avais
c'est
pas
vrai.
Vu que c'était ma fake
J'avais
news.
J'avais un truc qui ressemblait à ça. Ouais.
Donc, et que ça, finalement, ça rapportait de l'argent.
Ah, bien sûr.
Et donc, mais énormément d'argent. Et finalement, bah, la famille royale coûtait pas si cher que ça.
Bah oui, mais disons que s'il y avait pas tout cet argent, je pense que le gouvernement britannique donnerait pas autant d'argent à la monarchie. Mais c'est vrai que ça... Je sais pas si c'est totalement rentable, c'est ce qu'il disait sur France Info.
Bah, il disait que c'était pas, non, c'était pas rentable, mais que
rentable,
c'était,
mais...
c'était pas, le coût était pas si élevé qu'on pouvait le penser.
Ouais.
Mais après, faudrait que je retrouve,
Oui.
Ouais.
Mais c'est vrai que, quand c'est écrit, je sais plus sur quoi j'ai trouvé cette information-là, mais, ce que coûte, les dépenses de la famille royale, globalement, c'est à peu près similaire à juste la présidence de la République.
Mais ça, c'est intéressant, je trouve, de se dire ça. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, Emmanuel Macron, il coûte aussi cher que la reine d'Angleterre.
Et j'ai lu aussi que la présidence de la République n'a pas que l'Élysée, il y a aussi Brégançon, il y a l'hôtel Marigny.
Matignon.
Oui. Il y a un autre hôtel, il y a trois hôtels qui sont juste devant l'Élysée, qui appartiennent à la présidence de la République. Il y a Brégançon, l'hôtel, le château de la Lanterne, ça s'appelle comme ça ?
Non. Oui, je sais plus.
Oui, enfin, quelque chose comme ça. Et donc, il y a plein de résidences qui... plein. Quand même, quelques résidences très anciennes qui appartiennent à la présidence de la République. Donc, ça fait très monarchie comme truc, je trouve.
Ouais. Bah, en fait, quand on en a parlé, du coup, on en a parlé la semaine dernière... C'est la question que j'ai posée. Quelle était pour vous la différence entre justement un président et une reine ? Alors évidemment, il y a le côté élection, etc. Mais c'était pas si clair en fait.
Oui, oui.
La différence.
Bah, surtout
je sais pas,
en France.
Pour toi, par exemple, si Zach, si on évidemment le oui, c'est ça, surtout en France. Le président, on vote pour lui. Mais après, sur ce qu'il fait, sur... il représente la France.
Ben oui.
Du coup, mais la reine aussi. Enfin, le roi, enfin, je m'y fasse. Le roi aussi, en Angleterre, il représente. Il peut donner aussi des avis. Enfin, sur... là, on sait que, par exemple, Charles, il est super à fond dans le développement durable. Enfin, dans l'écologie. Donc, il va sans doute soutenir ça, donner son avis là-dessus.
Ce qui
donc,
normalement, il y a les gens qui travaillent avec lui, les... On me dit les technocrates,
les conseillers,
oui, voilà. Lui rappelle quand même que normalement le rôle d'un monarque constitutionnel, c'est de pas donner son avis, d'être absolument neutre. Et Charles, quand il était prince, ça allait encore parce qu'il était que prince. Mais on trouvait qu'il donnait déjà beaucoup trop son avis. Et en tant que chef de l'État, qui a pas de pouvoir, car en tant que roi, il devrait normalement conserver une certaine neutralité. Il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent de savoir si est-ce que il va être neutre ou est-ce qu'il va casser ce principe de neutralité. Et c'est possible qu'ils prennent position sur beaucoup de sujets. Ce serait compliqué, quoi.
Et
de...
ça, c'est bien ou pas ?
Tout dépend des sujets.
Ouais. Bah, c'est vrai que... Bah non, mais je te rejoins dans le sens où, bah, par exemple, la reine ne donnait pas son avis publiquement. C'était implicite, notamment dans ses tenues. On a entendu pas mal de fois parler. Mais c'est vrai que...
Alors, comment ça ? J'ai pas compris. C'est-à-dire qu'en fonction de la robe qu'elle portait ?
Oui, sincèrement. Par exemple, au moment du Brexit, une fois, elle avait porté une robe bleue avec un chapeau, avec une sorte de petits points jaunes. Et c'était
qui
perçu comme, comme une opposition au Brexit, finalement.
Ouais.
Une fois, elle venait en vert pour les conférences de la COP ou ce genre de choses. Où c'est des petits messages, mais publiquement, elle parlait et donnait...
Elle n'a jamais donné d'interview.
Si... Non, jamais elle a donné son avis politique. Donc après, je ne sais pas si cette neutralité, c'est quelque chose de bien. En tant que représentant, parce que le monarque n'a pas de pouvoir politique, sauf cas exceptionnel.
Mais c'est symbolique, mais en France aussi, le président, c'est symbolique. Alors, pas que, mais...
Ah non, mais il peut... Enfin,
oui, il peut dissoudre l'Assemblée, il peut... Oui, oui.
C'est vrai que, bah... je sais plus où j'ai vu ça, mais c'est Charles de Gaulle, globalement, qui a écrit la Constitution. Bon, il n'a pas pris une feuille, il n'a pas écrit la Constitution, mais il a été aidé. Mais c'est lui qui a écrit les grandes lignes et qui a tout décidé sur la Constitution qui est aujourd'hui en vigueur en France. Et certaines personnes disent qu'il avait quand même des pensées très... je sais pas royaliste, mais monarchique. Mmh. Pas monarchiste, mais monarchique.
Enfin, en tout cas, d'un hyper-président. Ouais.
Et à l'époque...
C'est-à-dire un président avec plein de pouvoir, quoi.
Avant de Gaulle, je veux pas dire de bêtises, mais sous peut-être la 3e, 4e République, le président de la République avait beaucoup moins de pouvoir. Okay. Et c'est peut-être justement parce que c'est Charles de Gaulle qui a écrit cette constitution que ça ressemble à un pouvoir monarchique. Si ça avait été quelqu'un d'autre, peut-être qu'on aurait une... juste un premier ministre ou comme pendant la troisième république, juste un président du conseil, et ça se trouve totalement différent comme en Italie. Et avec Charles de Gaulle, ça a changé.
Enfin, et qu'est-ce qu'il faut alors, un président avec plus de pouvoir ou moins de pouvoir?
Il y en a qui disent moins de pouvoir pour éviter de tout concentrer en une personne.
C'est vrai que dans le fond. C'est le Premier ministre qui récupère toutes les affaires du moment. Matignon, c'est... Beaucoup de journalistes insistent sur le fait que Matignon, c'est un peu l'enfer, parce que ils reçoivent toujours beaucoup de critiques, faut répondre à tout, faut toujours être parfaitement, en tant que Premier ministre, toujours être parfaitement clair, précis. S'il y a le moindre débordement, on se fait attaquer par son président et par les médias. Et c'est vrai que, d'un autre côté, on est beaucoup plus protégé en étant président, parce qu'on reste à l'Élysée, on a la fonction suprême de chef de l'État, il y a plein de choses qui... C'est comme un roi, en fait, quasiment.
Bah oui, c'est ça, finalement. Ouais. Est-ce qu'on n'a pas... c'est pas une manière aussi de se rassurer en France? On a l'impression d'avoir un papa, quoi.
Ouais.
C'est un peu ça. Bah, on aime bien se rassurer avec quelqu'un qui nous représente.
Mmh. Bah, c'est pas pour rien que... Bon, je sais pas si tout le monde le faisait, mais je crois qu'il y avait beaucoup de Français qui appelaient Mitterrand tonton.
Oui, c'est vrai.
Ah ouais.
Okay. Ouais.
Bah, c'était dans la presse, notamment. Oui, surtout dans les journaux, dans les médias, tout ça. Souvent, François Mitterrand, il était appelé... oui, tonton. Mais parce qu'il est resté, il a été... En fait, quand François Mitterrand était président, du coup, c'était 7 ans. Ça a duré 7 ans, les mandats d'un président. Aujourd'hui, c'est 5 ans. Et du coup, il a été...
14 ans.
Ouais, 14 ans. 7 ans et 7 ans. Mm. Donc, en fait, c'est énorme, quoi.
Ça pourrait être quasiment comme un règne, enfin.
C'est le plus long mandat présidentiel, je pense.
Bah, sans doute, oui. Et puis, ça sera toujours le cas, parce que maintenant, c'est 5 ans et on peut y être que 2 fois. Donc, ça veut dire que le maximum que peut faire un président, c'est 10 ans.
Ouais.
D'autres choses à rajouter sur ce sujet ou pas? Mais c'est vrai qu'il faudra creuser qu'on... Oui, vas-y.
Romain. Juste une petite anecdote par rapport à ces obsèques planétaires, en fait, puisque ça concerne la monarchie britannique avec le Commonwealth et tout. C'est que ça a été suivi par une audience exceptionnelle de 4,1 milliards téléspectateurs. C'est énorme. Je pense que c'est la plus grande...
Moi, ça me parle pas.
C'est plus grand...
Tu peux me dire 10 milliards...
Bah, pour dire, milliards. Je pense des chiffres. Bah, c'est la moitié de la population mondiale.
Non, mais c'est... Ah oui.
Bah, on est 7,8 milliards sur Terre, je crois.
Ouais, bah, je sais pas. Et bah, en tout cas, c'est la plus grande audience télévisée pour un événement de l'histoire de la télévision. Mais c'est vrai qu'en parallèle, il y a eu un manque à gagner dans les télés britanniques, notamment, puisqu'ils étaient interdits de diffuser de la publicité.
Ah oui.
Donc, c'est l'un des gros manques à gagner, à voir ce que réserve l'économie du Royaume-Uni pour les mois à venir.
On s'écoute quoi, Zach? Dans le micro, ouais, dans le micro, dans le micro.
Feu Chatron, le monde nouveau.
Feu Chatterton, ouais. Le monde nouveau, parce qu'on va peut-être écrire un monde nouveau, on sait jamais, hein.
Un vent, un grand vent nouveau, souffle sur le pays.
très chaudement dans un bain de foule dévot, à moitié épaillie. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les sprites, c'était à n'y comprendre à rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit du serveur central. Amour. Sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central.
Ça continue.
Et t'as vu l'actu, ça continue, toujours en compagnie de Zach, Romain, Marius et moi-même. J'aime bien parler de moi à la troisième personne. Juste pour Marius, j'avais mis une petite info de côté parce que je sais qu'il adore le foot. C'était juste pour vous faire réagir par rapport à la Coupe du Monde de foot au Qatar.
Ah, ça m'intéresse.
On voit qu'il y a beaucoup de gens qui commencent un peu à se dire ça va être hyper polluant et tout pour l'écologie, pour la terre, c'est pas bien du tout parce qu'en gros ça va être dans le désert, donc on a construit des stades de foot et puis du coup, en fait, ça va consommer beaucoup d'eau alors qu'on est dans le désert, va y avoir de l'électricité, enfin voilà. Et donc, certaines villes ont commencé à annoncer qu'elles n'allaient pas retransmettre sur écran géant, du coup, comme Lille, par exemple, qui l'a annoncé il y a un peu plus... cette semaine. Et il y avait Strasbourg auparavant qui avait annoncé qu'elle ne diffuserait pas. Il y a certains médias, celui de La Réunion, en fait, qui a dit qu'il ne couvrirait pas la Coupe du Monde. Donc, voilà. Tu vois, j'ai bien fait de mettre de côté pour toi.
Petite
réaction.
Ah, on peut réagir ?
Ouais, oui.
je réagis. Non, mais je trouve déjà aussi, ce qu'il y a de plus. Une des choses révoltantes, c'est que les gens qui sont morts pour construire tous les stades. Alors, il y a un stade, non, je pense pas qu'il y ait qu'un stade. Les stades sont en plein air et ils seront chauffés quand même. Donc, c'est complètement dingue. On dirait vraiment une fake news en fait. Des stades en plein air chauffés. Enfin, c'est révoltant. Et en plus, il y a des gens qui sont morts. Déjà, ça devrait commencer comme ça. Des gens sont morts pour construire les stades. Et nous, on va aller jouer dans ces stades-là. Rien que cette information devrait provoquer une vague de ah non, on va pas y aller. On va se débrouiller. Et puis, c'est pas comme si dans le monde on manquait de stades. Hein, ça s'organise. On pourrait d'ailleurs faire... je parle de ça, mais j'en sais rien. Mais ça se trouve, il est possible de faire une Coupe du Monde alternative.
Mais est-ce que c'est vrai que ces personnes sont mortes ?
Ah oui. Ouais, parce que je pense pas que les médias occidentaux prendraient le risque de mentir là-dessus ou de dire ça sans certitude que autant de... Alors, j'ai pas du tout les chiffres, mais c'est déjà trop, quoi. Un mort, c'est déjà trop pour construire ça. En plus, ils étaient vraiment pas bien payés, voire... pas du tout, alors je sais ça non plus, je sais pas trop, mais dans des conditions vraiment déplorables, et ça devrait nous suffire pour ne pas y aller.
En tout cas, les gens sont fortement exploités déjà.
De façon générale. Et d'ailleurs, je sais pas pourquoi le Qatar se retrouve avec l'organisation de cette Coupe du Monde, ça devrait même pas... Enfin, c'est vraiment bizarre, c'est comme si on confiait... c'est déjà arrivé, non ? La dernière Coupe du Monde, c'était en Russie.
Et ben voilà.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, c'est fou quand même, imaginons que ce soit la Russie.
Mais en même temps, c'est aussi aux sportifs, à un moment donné, de dire on n'y va pas, quoi.
Mais oui, mais bien sûr, mais les sportifs...
Bande de chiffres molles.
Mais voilà, les sportifs, ils veulent de l'argent.
C'est vraiment des footballeurs, quoi.
Ouais.
Je viens de me mettre à dos tout Saint-Nazaire. Oh, mon Dieu, tous les millions d'auditeurs qui nous écoutent sur Internet.
Mais ça vous apprendra.
Les 5 millions d'auditeurs.
Et vous en pensez quoi, du coup, Romain ?
Alors là, je suis d'accord avec ceux qui veulent boycotter la Coupe du Monde.
Moi aussi.
Mais complètement. Enfin, déjà, oui, c'est construit sur un cimetière d'ouvriers. D'un côté, t'en as qui applaudissent les femmes en Iran qui enlèvent leur voile, tout ça. Quand on voit les conditions des femmes au Qatar, on ferait mieux de se poser des questions.
Oui.
Sans parler, oui, de tous les trucs du climat, on a l'impression que c'est un monde parallèle, franchement. La dernière jolie mesure qu'ils ont prise, c'est de faire voler, je sais plus, une centaine d'avions pour les supporters vers des hôtels... juste à côté du pays vu qu'il est tout petit pour pouvoir être hébergé, donc voilà, une valse d'avion et tout ça. Et puis je sais pas ce qui se passe. Il y a une équipe, je pense que c'est celle du Danemark ou quelque chose comme ça, qui va là-bas, mais qui a refusé de mettre en apparence les logos de son équipe ou toute marque qui l'identifie. Un peu comme si ils boycottaient la Coupe du Monde, tout en permettant aux joueurs d'exercer. Et je suis totalement pour. Déjà, je serais pour le boycott, forcément. Entre les JO de Pékin et puis la Coupe du Monde là-bas, on est bien servi cette année. Je sais pas si le boycott, ce serait sans doute une solution, au-delà de diplomatique. Mais là, je pense que les conditions sont réunies pour faire cette mesure-là. Et puis, interdire la diffusion ou toute couverture de cette mascarade.
Zach, t'en penses quoi, toi, du boycott de la Coupe du Monde ?
Ben, vraiment, ça m'intéresse pas du tout.
Tu peux te mettre proche du micro, s'il te plaît.
Vraiment, ça m'intéresse pas du tout.
Mais alors, faut boycotter, si ça t'intéresse pas. Autant c'est que ça vrai. N'ait pas lieu.
Bah, c'est vrai, quoi. Vu que ça n'ait pas lieu, ouais, voilà. S'il y a des morts, ça donne pas très envie.
Non, c'est clair. Marius.
Et aussi, je me suis dit que, bah, comme tout le monde, que... En fait, puisque les sportifs, puisque les grands clubs de sport qui... Ben non, c'est pas... Oui. Puisque les bah, la FFF, c'est la FFF mmh. Oui. Puisqu'ils ne prennent...
Fédération française de football.
Voilà. Puisqu'ils ne prennent aucune décision et que ça leur fait marrer quand on leur dit... quand on leur dit qu'ils polluent trop la planète parce qu'ils se déplacent en jet privé et qu'ils préfèrent
prendre un char, qui voilà. Propose un char à voile. D'ailleurs, c'était une. Tu as cru que c'était une fake news la semaine
eh bien
dernière.
Non. Ils sont suffisamment stupides pour dire des bêtises. Pareil.
Non, non. En fait, c'est qu'il y a un Breton qui, du coup, un humoriste ouais. Breton ah, oui. Qui a vraiment fait le parcours en char à voile.
Et c'est possible.
Voilà.
Et
bref.
Et c'est poliment.
Et du coup, puisque ces gens-là, même à l'échelle européenne, on pourrait. Enfin, l'Union européenne pourrait avec parce qu'il y a plein de leviers qui peuvent être utilisés pourrait puisque c'est eux qui prennent les décisions, c'est les politiques qui prennent les décisions prendre vraiment le problème le taureau par les cornes comme on dit et interdire tout simplement à ces clubs-là d'y aller parce que vu qu'ils sont visiblement irresponsables et qu'ils peuvent pas ne boycotter par eux-mêmes et bah on les fera boycotter parce que ben, d'un côté, la politique de Macron, c'est de dire le président quinquennat, c'était la grande cause des femmes. Au Qatar, les femmes sont pas bien traitées du tout. Donc, bah, on va quand même envoyer les sportifs français nous représenter, hein, c'est normal. Là, il y a aussi dans les causes importantes du quinquennat, la transition écologique. Mais ça nous dérange pas quand même d'aller jouer dans des stades qui sont climatisés alors qu'ils sont. Enfin, c'est complètement contradictoire, incohérent et scandaleux. Voilà.
Alors, sans transition, le foot est un jeu et devrait rester un jeu et ne pas avoir autant d'enjeux financiers. Oh, moi-même, je m'épate. Non, bravo. Je rigole. Du coup, je vais me proposer de jouer. Ok.
Allons-y.
Okay.
Let's go.
Ok. Alors, je vais vous donner trois informations.
D'accord.
Dans ces trois informations, il y a une information qui est fausse. Il va falloir trouver laquelle. Donc, première information.
Est-ce qu'on doit y aller le plus vite possible et dire ou c'est juste...
Non, en fait, je fais pas bien les choses, je vous ai pas donné...
Les ardoises.
Petite question, Zach, c'est quoi les ardoises ?
Eh bien, c'est ça, une ardoise.
Alors, ce n'est pas vraiment...
Les parpaings.
Je veux bien que tu passes à...
Blague pourrie.
Avec le monsieur qui tape sur la table.
Hop. Et il faudra marquer 1, 2 ou 3, puisqu'il y aura 3 informations.
Moi, je pense que c'est 3.
Voilà.
On jette des trucs à la
Je fais ce que je peux.
C'est hyper violent comme.
Alors, première information. Lors de la Fashion Week, elle est spécialement pour Marius, celle-ci. Kim c'est Kardashian, comment ? Incapable de bouger à cause d'une robe trop serrée. l'univers de la mode peut être impitoyable. Et qui dira le contraire, puisque la star américaine était de passage. Du coup, c'est passé en Italie, à Milan.
À Milan, oui.
Et c'était samedi dernier. Et elle présentait une nouvelle collection de vêtements qui s'appelait Ciao Kim, et qui a été créée par la marque Dolce & Gabbana. Et cependant, en fait, eh bien, elle a eu quelques difficultés à marcher normalement. Donc voilà. Première information.
Ah, ok.
Deuxième information. Avec la hausse du carburant, il y a des Normands qui vont jusqu'en Andorre, du coup, pour faire le plein d'essence. Donc, chaque week-end, en fait, ils s'organisent, ils tournent, et du coup, ils vont chercher de l'essence qu'ils ramènent, ils font l'aller-retour vers l'Andorre, afin de faire le plein d'essence à un tarif plus avantageux, et donc, ils s'organisent. Et avec un prix du litre de plus en plus cher, ils sont des dizaines, et ça prend, voilà. Et il faut savoir que le trajet, ils mettent environ 17 heures, parce qu'en fait, ils évitent les péages, pour essayer vraiment d'économiser au maximum leur trajet. Deuxième information. Troisième information, en Chine, un robot femme nommé PDG d'une société, c'est du jamais vu dans le monde, donc elle s'appelle Madame Tangyu, elle présente des avantages inégalables par des humains, elle n'est jamais fatiguée, ne réclame jamais de salaire, Et donc, les robots ont-ils pris le pouvoir? Bah, au moins celle d'une entreprise. Cette entreprise est en Chine. Elle s'appelle le NetDragon Websoft et c'est un des plus grands concepteurs de jeux vidéo qui a décidé de nommer une certaine Madame Tang Yu, j'ai l'impression d'être dans les mystères de Pékin, Madame Tang Yu aux commandes de sa filiale basée à Fujian dans le sud du pays. Voilà, ces trois informations que je reprends pour vous laisser le temps de réfléchir. Kim Kardashian, qui ne peut pas marcher. La hausse du carburant, les Normands qui vont s'approvisionner en Andorre ou... La Chine, qui est une entreprise de jeux vidéo, qui est commandée par une femme. Tic-toc, tic-toc, vous me dites quand c'est bon.
Mais c'était une femme robot,
C'est une femme robot, oui. C'est l'intelligence artificielle. Donc, il faut mettre un, deux ou trois. Il n'y a pas vraiment de... C'est pas grave, hein, si on se trompe. Hein. Alors, Marius.
Oui, pour que ce soit plus clair, je vais recommencer ma présentation.
Bah, un, deux ou trois.
Ah, un.
D'accord, donc ça serait la Kim Kardashian. D'accord. Romain.
La 1 aussi.
D'accord.
moi, ce serait la F.
Alors, bien dans le...
La 3.
La 3, donc l'histoire du robot.
Oui.
Purée, donc l'histoire des Normands qui vont jusqu'en Andorre, vous, ça vous pose aucun problème. Bah. Ils dépensent autant de carburant pour y aller, pour revenir, ils mettent 17 heures. Mais c'est celle-là, la fausse information.
Ah, bon,
bah alors
bah, je me suis dit des Normands.
ils mettent 17 heures, vous imaginez ce qu'ils consomment en essence pour y aller.
Mais c'est vrai, pourquoi ils iraient à Andorre, en fait?
Bah, pour payer moins
ils
cher.
Aller en Belgique, sinon.
Mais non, mais c'est... Et donc, c'est André qui m'a trouvé cette merveilleuse... Rendons à César ce qu'il y a à César, cette merveilleuse information.
Le César de la meilleure fille.
Et donc c'est un site de fake news normand. Ça se passe, tout se passe en Normandie, c'est génial. Donc non, Kim Kardashian a bien eu du mal. Ça s'est vraiment passé. C'est une victime de la mode et donc ça a été sur 20 minutes sur le site de 20 minutes. Et la Chine, la Chine, c'était je crois aussi sur le site de West France. Et c'est une vraie information également. Voilà, donc ça a fait le tour. Je pensais que celle-là, vous la connaissiez,
ouais.
L'histoire de la Chine, parce que en fait, elle a fait un peu le tour des réseaux.
Mais c'est dingue ça quand même. Que... Oui. Mais c'est vraiment un robot qui peut marcher.
Ouais, bien proche du micro.
Qui peut marcher, qui peut courir.
Mmh. Ouais.
Il représente
un humain. Non, je sais pas. Mais en fait, c'est elle qui prend les décisions, par contre.
D'accord.
Elle a pas besoin forcément de marcher, il suffit juste qu'elle soit face à un ordinateur, ouais. Et qu'elle fasse le job en fait.
Ça veut même être un ordinateur, ça.
Oui, c'est
une intelligence artificielle.
Et puis engager et licencier quand les employés ne sont pas performants.
C'est plutôt ça, c'est qu'elle peut engager du monde et licencier du monde.
Ok.
Et c'est vrai.
Et puis t'as aucun moyen d'être contre le robot.
Non, c'est ça. Bah non. Marius.
Et aussi, avant de venir à l'émission, j'ai vu, j'ai pas. C'est très bref, hein. Mais j'ai vu que. L'entreprise, je sais pas comment ça s'appelle, l'entreprise d'Elon Musk a mis au point un robot et c'était marqué sur le truc un robot qui révolutionnerait le monde, voilà. Alors j'avais juste envie de le dire comme ça, on loupe aucune information.
Ça rejoint, je pense que c'est un peu dans le même style. Marius, Romain, comment fait-on pour conseiller Zach pour pas qu'il ait de fake news?
Écoutez la tribu.
Oui, écoute la tribu et regarde les sources. Les sources.
Mais c'est
les
quoi sources, une source? Il te reste 10 secondes.
Les différents médias.
Tous.
Quand t'as une information que tu veux rechercher, si t'en as plusieurs qui disent la même chose, et plus il y en a qui disent la même chose, plus t'as des chances d'être vrai.
En général, quand t'as une information et qu'il y a au moins 2 voire 3 médias, c'est-à-dire 3 journaux différents, 3 radios différentes, 3 ou une radio, une télé, un journal différent, ça veut dire que l'information, elle est vraie. En tout cas, c'est plus sûr. Par contre, si tu trouves une information un peu bizarre, du type, les 3 que je viens de vous présenter, et que tu l'as que dans une... sur un site, du coup, voilà. Et on rappelle que Logographie, hein, c'est pas un vrai journal.
Oui, comme ça...
voilà.
Oui, c'est sûr.
Merci beaucoup, Zach.
De rien.
Merci beaucoup Romain.
Merci.
Merci beaucoup Marius.
Mais de rien.
Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Restez sages, mais pas trop.